أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. On fait partie des chanceux, ceux qui ont eu la chance de faire la prière de l'Aïcha à la mosquée, si bien qu'ils seront récompensés comme s'ils priaient durant la moitié de la nuit. Alhamdulillah. Il y en a qui n'ont pas pu pour mille et une raisons. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que tant que vous avez la possibilité et la capacité de faire la prière à la mosquée, faites-la. Vous y gagnez en hasanat, même vous voyez la moitié de la nuit. Tu peux dormir, tu peux ronfler, c'est ça? Et t'es payé, exactement. Et comme ça, là, on ne peut pas trouver mieux que ça, franchement. Alors, le travail. En fait, l'être humain a été créé pour travailler. Le propre de l'être humain, c'est justement le travail. La preuve, c'est que Dieu ne l'a pas laissé au paradis. Si Dieu voulait que l'on ne travaille pas, il nous aurait gardés au paradis. Mais Dieu nous a mis sur terre pour agir, pour bosser, pour travailler. Vous êtes bien d'accord qu'au paradis, Adam alayhi salam n'avait pas besoin de bosser pour manger. Il n'avait pas besoin de bosser pour payer le loyer, ni pour s'habiller. Il avait tout à l'œil. Il a écouté Shaitan. Qu'est-ce que lui a dit Shaitan? Il lui a dit, Dieu ne veut pas que tu manges le fruit de cet arbre pour telle et telle raison. C'était une arnaque, une blague. Il lui a menti. Adam alayhi salam a oublié. Il n'a pas eu assez de force pour résister à la tentation. C'est un être humain, il est faible. Et il est tombé dans le piège de Shaitan. Après, il a reconnu. Il a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Vous connaissez l'histoire. Juste un rappel. Alors, est-ce que Adam a été mis sur terre pour être puni? Tu dis non. C'est quoi la preuve? Là, tu l'as dit au hasard. Attention, quand on avance quelque chose, il faut une preuve. Si vous n'avez pas de preuve, taisez-vous. Ne dites rien, parce que vous serez questionné sur ce que vous avez dit. Alors, est-ce que Adam a été mis sur terre parce qu'il a désobéi? Répondez, n'ayez pas peur. Hein. Vous ne serez pas puni si vous vous trompez, si vous n'avez pas la réponse. Vous ne savez pas? Oui? Donne ton avis. Tu ne sais pas?
J'ai une petite avis, mais je ne suis pas sûr.
Vas-y, c'est rien. Donne-le quand même.
Bah, je ne sais pas si c'était par rapport à Shaitan, mais on entraîne dans un fruit goûte au fruit, c'est ça? Peut-être en mal de Adam sur Terre pour nous arrêter de lutter contre Shaitan. Shaitan lui a promis de faire tout en son possible pour dévier en fait. Dévier toute la descendance d'Adam en fait.
Ce que tu dis c'est vrai, mais ce n'est pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée c'est est-ce que Adam alayhi salam a quitté le paradis, Dieu l'a mis à l'extérieur du paradis parce qu'il a désobéi? C'est ça la question. Alors vrai ou faux? Très bien. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Très bien. Allez. Le fait d'être sur terre n'est pas une punition. Puisque Adam alayhi salam a mangé du fruit, il a désobéi. Il a demandé à Dieu le pardon et Dieu lui a pardonné. Donc si Dieu lui a pardonné, il n'a pas puni. Donc Adam alayhi salam n'est pas sur terre à cause de son péché. Ça va, vous me suivez ? C'est-à-dire, vivre sur terre n'est pas le fruit du péché. Vivre sur terre n'est pas le fruit de la punition que Dieu aurait infligée à Adam, alayhi salam. Adam a désobéi, c'est une chose, et vivre sur terre, c'est autre chose. La preuve, quand Dieu a créé Adam, alayhi salam, qu'est-ce qu'ont dit les anges ? Ils ont dit, Allah, tu vas mettre sur terre ? C'est-à-dire, les anges savaient déjà que Adam allait vivre sur terre, avant même que Adam, alayhi salam, n'est désobéi. Donc, Dieu nous a créés pour vivre sur terre dans un premier temps. Et ensuite, on vivra au paradis. Donc, la vie sur terre n'est pas une malédiction. La vie sur terre n'est pas le fruit du péché, n'est pas la conséquence du péché. Vous savez ce que je suis en train de vous dire ? C'est fondamental, parce que c'est ça qui va faire que nous allons vivre sur terre avec une volonté de plaire à Dieu, parce que la vie sur terre n'est pas une punition, n'est pas une malédiction, mais c'est un cadeau. L'inverse. Qu'est-ce que disent les chrétiens ? Les chrétiens disent que Adam a désobéi et Dieu l'a puni. Et c'est quoi la punition ? C'est la vie sur terre. Mais si seulement ça s'arrêtait là, ça serait le top. Non, ils disent que le péché de Adam va se transmettre de père en fils. Ainsi, l'humanité tout entière est maudite. Et il a fallu attendre le jour où Dieu a décidé de racheter l'humanité en faisant un enfant qu'il a envoyé sur terre pour que les gens le tuent, donc les gens vont tuer le Fils de Dieu, pour que Dieu pardonne aux êtres humains. C'est-à-dire, Dieu pour pardonner aux êtres humains qui sont dans la malédiction, parce que ils se transmettent le péché de père en fils. Il a fallu attendre des milliers d'années pour qu'il y ait une offrande, un sacrifice humain. Vous entendez ? Un sacrifice humain. Bon alors, humain, mi-divin, on ne sait plus. Okay ? Jésus, c'est quoi ? C'est Dieu, demi-Dieu, le Fils de Dieu. Bref, il a fallu attendre des milliers d'années qu'il y ait un sacrifice humain, donc tuer un être humain, les hommes donnent la mort à un être humain, pourquoi ? Pour que Dieu ne maudisse plus l'humanité. Ainsi, celui qui croit que Jésus a été sacrifié pour racheter la faute de l'humanité, il est sauvé. Vous voyez, la philosophie, elle n'est pas la même. Hein ? Nous disons que la vie, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction. Et nous disons que la vie sur terre n'est pas synonyme de malheur, n'est pas synonyme de catastrophe. Au contraire. Et c'est ça qui doit déclencher chez nous l'amour de la vie. On doit aimer la vie, on doit avoir envie de vivre. On ne doit pas être atteint par la fameuse maladie de Baudelaire, le spleen. C'est ça ? T'en as marre, ok ? Donc tu bois, tu fumes, tu t'isoles, et après tu sais ce que tu fais, tu te suicides. Après le suicide social, psychologique, familial, c'est le suicide physique. Non. Toi, tu dois avoir le sourire. Tu tu dois être content d'être vivant. La preuve, regardez qu'est-ce que notre religion nous enseigne. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Alhamdulillah, t'es heureux, t'es content. Tu dis pas, oh punaise, encore un jour de galère et de misère. Ouais. Vivement, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il attend. Ouais. Vivement, non. Le jour quand il se lève et tu respires, dis Alhamdulillah. Sois content et heureux. Parce que Dieu t'a donné du répit. Pourquoi ? Pour bosser. Et d'ailleurs, chez nous, musulmans, il n'y a pas de foi sans travail. Lisez le Coran, vous verrez. À chaque fois que Dieu parle des croyants, il dit ceux qui croient et qui agissent. Alladina amanu wa amilu. Allez, le verbe croire, ouais, dans le Coran, il est toujours suivi du verbe agir. Ouais. En d'autres termes, celui qui prétend qu'il croit sans agir et qu'il n'a pas besoin d'agir, ou celui qui vous dit la foi elle est dans le cœur, c'est suffisant, ouais, c'est un menteur. Si sa foi était réellement dans le cœur, on le verrait dans ses actes, dans ses paroles, on le verrait dans ses actions. C'est pour cela, Dieu dans le Coran, quand il parle des croyants, il ne dit pas les croyants, ce sont ceux qui croient en ceci, en cela, ceux qui ne croient pas en ceci, en cela. Vous savez qu'est-ce qu'il dit ? Ceux qui croient et qui font. Ceux qui croient et qui agissent. Ce n'est pas de la théorie. Le croyant, ce n'est pas celui qui maîtrise la théorie. C'est celui qui a la théorie, une tête bien remplie, et ensuite qui agit à la lumière de ses connaissances, à la lumière de ses convictions. C'est pour cela, dès le premier siècle de l'islam, il y a eu malheureusement un petit courant philosophique. Il n'était pas nombreux. Quelques savants qui ont été suivis par quelques moutons de Panurge. Ce courant, vous savez qu'est-ce qu'il a développé comme philosophie ? Il a développé la philosophie de la foi sans l'action. Et ils ont dit, il n'est pas nécessaire de pratiquer pour être un bon croyant. On pourrait les appeler les laïcards. Mais oui, car qu'est-ce que demande la laïcité à un croyant ? Elle lui demande de garder sa foi dans le cœur et de ne pas l'exprimer en place publique. À la rigueur, si tu veux pratiquer, tu pratiques où ça ? Dans ta sphère privée, ta baraque ou ta mosquée ou ton église ou ta synagogue. Mais dès que tu es dans la rue, s'il te plaît, tu te changes, tu te transformes. Tu ne dois plus exprimer ta foi. C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est tu dois avoir deux visages, deux facettes. Tu dois être deux personnes en une. Quand tu es chez toi, quand tu es à la mosquée, tu crois et tu pratiques. Mais dès que tu sors, tu vis dans la place publique, tu ne pratiques plus. Parce que la laïcité t'interdit d'exprimer, d'exposer ta religion en place publique. Donc on se comprend, la vie sur terre n'est pas une malédiction, n'est pas le résultat d'une punition et d'un péché. Adam devait vivre sur terre, ça a été programmé avant même qu'il ne soit victime de la tentation de Shaitan. Sa faute a été effacée sur le champ puisqu'il a demandé pardon. Et nous ne sommes pas maudits parce que notre ancêtre a commis une faute. La faute ne se transmet pas de père en fils. Chacun est responsable de ses actions. Il n'y a pas de responsabilité collective. Ouais. C'est pas parce que tu as fait une connerie que moi, parce que nous sommes de la même famille, nous sommes de la même communauté, nous partageons les mêmes idées, que je vais payer avec toi. Ça, c'est l'injustice par excellence. Très bien. Le croyant, c'est celui qui croit et qui agit, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire sur terre ? Il nous est demandé de faire deux choses. Ouvrez bien vos oreilles. Il nous est demandé d'adorer Dieu, ça s'appelle l'ibada, et il nous est demandé de rester en vie pour l'adorer. Et vous savez tous, je n'ai pas besoin de m'attarder, que pour rester en vie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut boire, il faut manger, il faut s'habiller, il faut se protéger du froid, de la chaleur, il faut se soigner, il faut s'accoupler, il faut procréer. Vous le savez, c'est dans l'instinct de l'être humain. D'accord ? Donc, l'objectif, ton rôle sur terre, c'est ce qu'on appelle imaratul ard wa ibadatullah. Huwa alladhi khalaqakum. Regardez, c'est lui qui vous a créé. Wasta'amarakum. Regardez, il vous a créé pour que vous agissiez sur terre. En quoi ? Vous allez agir comment sur terre ? Vous allez construire. Vous allez être utile sur terre. C'est quoi l'utilité ? C'est justement exploiter les richesses qui existent sur terre, même pas sur terre, pardon, les richesses qui existent dans l'univers tout entier. Parce que Dieu dit dans le Coran, c'est lui qui vous a donné gratuitement quoi ? La terre et ce qu'il y a dedans, et les cieux et ce qui s'y trouve. C'est-à-dire, il t'est demandé à toi, toi, l'être humain, que toi, d'exploiter. Donc, d'abord, tu l'explores, ensuite, tu l'exploites. Exploiter quoi ? La terre et ce qu'il y a dedans. Donc, c'est écrit comme ça dans le Coran, ce qu'il y a dedans. Donc, avec les océans et ce qui s'y trouve. Donc, la terre, c'est le globe terrestre. Et les cieux. Les cieux aussi, il nous est demandé de quoi ? De les explorer et de les exploiter. Pourquoi ? Pour justement permettre à l'être humain de vivre le temps qui lui a été imputé. Et ensuite, vous savez ce qui va se passer. Donc, l'être humain n'a pas été créé pour rester sans rien faire. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Lorsque Adam doit quitter le paradis, Dieu lui dit, maintenant, tu vas déménager. Fini le Club Med. Maintenant, tu vas aller sur terre et tu sais ce que tu vas faire sur terre ? Tu vas devoir penser à avoir un toit. Tu vas devoir penser à t'habiller, à boire et à manger. Et c'est tout ça, ça a quel prix ? Ça, shukran, barakallahu fik. Ça a quel prix ? Fatashqa. Regardez ce que le Coran utilise comme fatashqa. C'est-à-dire, tu vas peiner. Ouais, tu vas peiner. Il y a de la peine. Ce n'est pas gratuit. Tu vas galérer. Ouais. Tu vas devoir faire des efforts. Au paradis, il n'y avait pas d'efforts, tu avais tout. Maintenant, tu feras des efforts et tu auras aussi ce que tu veux. Mais il faut semer pour récolter. Alors, vous allez me dire, ouais, attends, tout ce que tu es en train de dire, c'est évident, on le sait. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas si évident et beaucoup ne le savent pas. La preuve, regardez. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il passe et il voit des gens assis. Il leur dit, que faites-vous ? Ils lui disent, Nahnu al-mutawakkilun. On place confiance en Dieu. Et que faites-vous ? À cette heure-ci, normalement, vous devrez être au travail. Vous faites quoi là, assis ? Ils lui disent, on place confiance en Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de courir, ok ? Notre foi nous a enseigné que Dieu nourrit ses créatures. Donc, on ne se casse pas trop la tête. Alors, ça passe ou ça passe pas ? Regardez, ils sont musulmans. Déjà, à l'époque, c'est-à-dire, il a quitté sa nature humaine, car un être humain normalement constitué se met debout, il fait des efforts pour rester en vie, pour manger, boire, etc. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il s'est dénaturé, et il s'est mis en dessous du niveau de l'homme, voire même, regardez ce qu'il dit, en dessous de l'animal. Car l'animal, a un honneur, il bosse. Ouais. Vous vous rendez compte ? Et le profiteur, le gratteur, celui qui ne bosse pas, celui qui ne veut pas bosser, celui qui a la possibilité et qui ne fait rien, il est en dessous de l'animal. C'est comme ça que Rahib al-Asfahani l'explique. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu aime. Inna allaha yuhibbo. » Il aime qui ? Al-abd al-muhtarif. Dieu aime son serviteur qui a un métier. Le serviteur qui bosse, il a un métier. Dieu l'aime. Et l'autre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? L'autre qui ne fout rien, qui ne veut rien faire, qui n'a pas de métier, qui ne fait pas de stage, qui ne fait pas de formation, qui ne veut pas apprendre. Celui-là, est-ce que Dieu l'aime ? Dieu ne l'aime pas. Ben oui, Dieu n'aime pas une chose et son contraire. Choisis ton camp, d'accord ? Donc tu bosses, tu as ton métier, sinon tu ne fais pas partie de ce que Dieu aime. Inna Allah ta'ala yuhibbu al-mu'min al-muhtarif. Dieu aime le croyant qui a un métier. Et Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, dit la pire des choses sur terre, c'est le chômage. Al-bitala. Hein? C'est-à-dire ne rien faire. C'est qui le battal ? Le battal, c'est celui qui ne fait rien. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand on parlait de quelqu'un et on le mettait en valeur, tu sais, quand on disait du bien de quelqu'un, Omar questionnait les personnes en disant, c'est quoi son travail ? Il fait quoi dans la vie ? Et quand on lui disait rien, ouais, quand Omar découvrait que le mec, rien, qu'est-ce que faisait Omar ? Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, taisez-vous, nul bien en lui. Allez, arrêtez de faire des éloges. Il est zéro. Pour vous, il est bien. Non, non, moi, Omar, je vous dis, ce mec, il est nul. C'est un petit crâneur, un flambeur, c'est tout. Ouais, il est bien habillé, il se la joue, mais c'est quoi ? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Il ne bosse pas, c'est un fainéant. Omar le vire, Omar n'en veut pas, Omar ne lui donne pas d'importance. C'est pour cela Abou Bakr Siddiq, radiallahu anhu, disait, je déteste, inni la akraho, je déteste quoi ? As-sabahlal. On dit, c'est quoi sabahlal ? Il a dit, celui qui n'est pas occupé à adorer Dieu, ou il n'est pas occupé à travailler pour sa vie d'ici-bas. C'est-à-dire, le mec qui n'est pas branché, hein, dans l'au-delà, à travers les prières et tout ce que vous voulez, ou il n'est pas branché à construire sa vie sur terre. Abou Bakr a dit, je n'aime pas cette personne. Et il n'aime pas les oisifs, les gens oisifs, c'est-à-dire qui font rien, hein, qui s'ennuient, qui ne s'occupent pas et qui ne sont pas occupés. Abou Bakr a dit, je ne les aime pas. Et on a eu un gros problème. On a eu un gros problème tout au long de l'histoire de notre communauté. Il y avait un petit groupe de croyants, ouais, qui se sont appelés des saints. Et leur spécialité, c'était ne pas bosser. Et ils vivaient, ils étaient à la charge de la communauté, de la générosité des gens. Ouais. Comme les moines, les... Et encore, vous avez moines et moines. Il y a certains moines qui se retiraient et ils avaient leurs animaux, leurs terres, etc. Puis vous avez les autres, les traîtres. C'est, ils ne font rien et ce sont les gens qui les prennent en charge. On a eu ça aussi dans la communauté. Et d'ailleurs, ça existe encore un peu, hein, dans certains pays musulmans. Vous avez encore certaines, entre parenthèses, personnes qui se veulent religieuses, qui ne foutent rien. Et ce sont les gens qui leur font des dons. Hein, ils vivent de la générosité et de la bonté des gens. Omar ibn al-Khattab, Abou Bakr a dit, ces gens-là, je ne les aime pas. Et c'est vrai, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas le droit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui demande, donc celui qui ne travaille pas, et qui demande aux gens, il ne cessera de demander jusqu'à ce qu'il n'ait plus le jour de la résurrection un gramme de viande sur son visage. C'est-à-dire, celui qui demande, qui vit aux dépens des autres, il sera ressuscité comment ? Avec un visage squelettique, c'est-à-dire il n'y aura que les os. Hein ? Pas de peau, pas de muscles, rien du tout. Vous voyez, vous avez déjà vu une tête d'un squelette ? Hein ? Mais ce qui reste, la personne sera comme ça. Regardez. « وَلَيْسَ فِي وَجِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ » يعني « قِطْعَةُ لَحْمٍ » Le mec, il sera ressuscité et il n'aura plus un visage ordinaire. Pourquoi ? Parce que sur terre, il n'avait pas un peu de nif, un peu de fierté, un peu d'honneur, un peu de rougeau, là. Ouais, le côté viril humain, il ne l'avait pas. Alors, travailler, c'est nécessaire, c'est naturel, c'est humain, c'est vital, mais la religion, elle va beaucoup plus loin, c'est obligatoire. Vous entendez ? C'est une obligation. Et Dieu nous a mis dans le Coran des exemples pour que l'on suive ces exemples-là. Des exemples de prophètes. Si ne pas travailler était quelque chose de positif, Dieu n'aurait pas mis en évidence des prophètes et il met en exergue leurs travaux, leur savoir-faire. Le prophète Daoud, alayhi salam, vous savez qu'il était roi, oui ou non ? Dans le Coran, Dieu parle de lui. Et qu'est-ce qu'il dit ? وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسَ. C'est-à-dire, Daoud était un forgeron. Vous entendez ? Daoud, alayhi salam, et David étaient un forgeron. Vous vous rendez compte ? Avant d'être roi, il était forgeron. Et quand il est devenu roi, ouvrez bien vos oreilles, il a continué, il a gardé son métier. Vous voulez la preuve ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne de Daoud. Il jeûnait un jour sur deux. Et Daoud ne mangeait rien. Tout ce qu'il consommait était le fruit de son labeur. C'est-à-dire sa nourriture, ses vêtements, c'est lui-même qui les achetait avec l'argent qu'il a gagné en suant. Et pourtant, il était roi. C'est-à-dire qu'il n'a même pas accepté d'être à la charge de l'État, de la communauté. Il n'a pas accepté, il a refusé. Il est resté forgeron, moins, il travaillait un peu, et il ne mangeait comme nourriture que la nourriture qui venait que le fruit de son travail. Ouais. Pour vous montrer comment était le prophète Daoud alayhi salam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi salam lui-même, tout jeune, n'était-il pas berger ? N'était-il pas commerçant ? Dieu dit dans le Coran, tous les prophètes qu'on envoyait au peuple, qu'est-ce qu'ils faisaient ? كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. C'est beau, non ? C'est-à-dire, c'était des êtres humains comme tout le monde. Ils allaient au marché pour acheter leur nourriture. Ils allaient au marché pour vendre, pour travailler. Ils avaient une femme, ils avaient des enfants. Vous avez compris ? Ce n'étaient pas des chômeurs, ce n'étaient pas des gens qui restaient assis, on attendait, ils attendaient pour qu'on les serve. Non, Dieu dit dans le Coran, à propos de tous les prophètes, ils se mettaient debout, ils allaient au marché, ils faisaient leurs courses, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant, quand il fait ses courses, il doit les porter, les ramener lui-même. Vous avez entendu ? C'est-à-dire, un croyant, il assume ses responsabilités, il va jusqu'au bout, il va faire ses courses, d'accord ? Ouais. Et il remplit son caddie, il met ce qu'il a acheté dans le coffre de sa voiture, arrivé devant chez lui, il vide et il ramène. Allez, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici à quoi ? À assumer notre responsabilité, à ne pas considérer « Oh non, moi je ne fais pas les courses, c'est à toi de les faire, chère madame. » Le mec est allongé dans le divan, il zappe, il regarde la télé toute la journée, et madame, elle doit courir, ouais, faire tous les magasins, ramener. Et quand elle ramène, elle doit vider, elle doit porter les packs d'eau, les packs de lait, elle doit porter les boîtes de conserve. Monsieur, il ne bouge pas. Ouais. Je fabule pas, hein, c'est de la réalité. Hein. D'accord. C'est des problèmes dans des couples. Hein. À cause de ça. À cause du mari feignant. À cause du mari qui ne veut pas assumer sa responsabilité. Le prophète dit non, c'est à toi de porter tes... Allez, va jusqu'au bout, sois un homme. Tu bosses, ouais, tu passes au magasin, tu ramènes à manger à ta famille, tu leur mets dans le bec la nourriture. Allez, attention, hein, vous me comprenez. Ouais. Ouais, tu peux envoyer tes gosses, tu fais avec les courses avec madame ou tu l'envoies. Mais comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire, soyez des hommes, c'est-à-dire des gens responsables. D'ailleurs, c'est ce que dit le prophète, alayhi salam. Vous êtes tous des bergers responsables de votre... troupeau, d'accord ? Et il suffit comme péché. Il y a un péché. Si vous le faites, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'en faire des autres, hein, pour aller cramer en enfer. C'est quoi ce péché ? Qui est suffisant, hein ? Vous n'avez pas besoin d'en rajouter un deuxième, un troisième pour aller en enfer. C'est lequel ? Vous ne savez pas ? C'est le fait de ne pas nourrir ceux qui sont à ta charge. An yudayya quta ahlihi, dit le hadith. C'est-à-dire, le fait de ne pas assumer ta responsabilité, c'est-à-dire ceux qui sont à ta charge, tu les délaisses, ça suffit comme péché aux yeux de Dieu pour que tu mérites la punition. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, ils ont vu un homme qui bossait. Ils ont fait une remarque. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, oh, si seulement il bossait comme ça pour Dieu. C'est un bosseur, mais bon, ça. Si seulement il était aussi motivé pour la religion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va remettre les pendules à l'heure. Il va corriger ses compagnons. En leur disant, s'il est en train de courir, in kana kharaja yas'a ala waladihi, s'il est en train de courir pour nourrir ses enfants, ses fils abilillah, il est sur le chemin qui mène au paradis. Il est en train d'adorer Dieu. S'il est en train de courir pour ses parents, il est sur le chemin du paradis. Il est en train d'adorer Dieu. S'il est en train de courir pour se prendre en charge, regardez, in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha, pour rester indépendant, alors il est sur le chemin qui mène à Dieu, au paradis. Par contre, s'il est en train de faire tout ça pour crâner, pour n'importe quoi, effectivement, c'est un suppôt du diable. Donc vous avez vu comment le prophète alayhi salam enseigne que le religieux ne s'arrête pas au recueillement. Aller au travail, c'est de la religion. Vous avez compris ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, tu prends ta voiture, tu vas au boulot, ben c'est comme si tu vas à la mosquée. Tu es sur le chemin qui mène à Dieu, fils abilillah. Donc tu vas comme en traitant ou en... Vous avez vu l'état psychologique de la personne, comment il est important ? Parce qu'il y en a qui traitent. Hein. Il va au boulot, il souffle, il traite. Allez, imaginez-vous, vous sortez de chez vous, vous allez à la mosquée, puis vous traitez. Pouah, je vais encore aller à la mosquée faire la prière. Oh, j'en ai marre, oh punaise. vivement les vacances. Vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes bien d'accord. Parce que vous allez à la mosquée, vous êtes content, vous êtes heureux. Je veux dire, vous n'êtes pas à la mosquée avec un flingue sur la tempe quand même, non ? Ouais. Eh bien, le mec, il va au boulot, il traite. Bah, tu traites, tu n'auras pas de récompense. Et tu vas quand même boulotter, que tu veuilles ou non. Conclusion, va au travail avec le sourire. C'est fisabilillah. Oh, c'est mieux. Ouais, la journée, elle passe mieux quand même. Hein. Non ? Comme quand tu sais que c'est ta dernière semaine après tes 3 mois de vacances. La dernière semaine, elle est toute légère. Elle passe vite, hein, tu es content. Bah, tu veux que ta journée, ta semaine, ton mois passe vite. Mets-toi dans la tête que ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction ce que tu es en train de faire. Tu es sur le chemin qui mène à Dieu. Sois content, sois heureux. Et la preuve, c'est ça, c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour justement que l'on aborde le travail sous l'angle religieux et que l'on considère que le labeur, le travail en lui-même, c'est un acte d'adoration, il l'agrémente. Avec quoi ? Avec cette dimension religieuse. Par exemple, regardez, il dit, celui qui, l'agriculteur, le paysan là, il plante son blé, son maïs, ses salades. Regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui plante un légume ou un arbre fruitier, tout animal qui consommera de ce légume ou de ce fruit, vous êtes bien d'accord, hein, vous êtes un paysan, vous avez un champ de maïs, il y a des lapins qui vont passer par là, il y a des jeunes qui vont vous piquer un épi de maïs. Regardez ce qu'il dit. Toute créature qui consommera de ce fruit ou de ce légume, ce sera pour celui qui l'a planté une sadaqa. C'est une sadaqa pour toi. C'est-à-dire, quand tu bosses, tu as deux salaires. Tu as le salaire de ton patron à la fin du mois, si tu es un ouvrier, et tu as le salaire de Dieu. Car ce que tu as fait comme travail sera utile. Utile à qui ? Utile à toi, parce que tu as bossé, tu as un salaire, oui ou non ? Mais utile à ceux qui vont en jouir. Franchement, c'est pas le top quand même. Deux salaires. Un matériel sur terre et un spirituel, tu auras la récompense dans l'au-delà. Bon, je vais vous donner un exemple tout simple. Ouais. Tu es un chercheur dans un laboratoire. Ouais, tu bosses. Hop, et puis, je ne sais pas, tu as inventé un médicament, ou tu as développé, tu as amélioré, ou une machine, ou... Bref, ton travail va te permettre de quoi ? De faire avancer les choses. Si bien que des dizaines, des centaines, des milliers d'êtres humains vont en profiter. Alors sache que tu es doublement récompensé. Allez, tu bosses les travaux publics, tu es en train de refaire la route, ouais, la départementale 463. D'accord ? Toute cabossée, il y avait plein de trous. Hop, nickel. Oh, la route, elle est bien. Toute personne qui profitera de cette route, ça sera une sadaqa pour toi. Et ainsi de suite, vous pouvez multiplier l'exemple. Tu bosses, tu as ton salaire, c'est une première récompense. Et le second salaire, c'est que les animaux, les humains qui vont jouir de ce que tu as fait, tu seras gagnant, tu auras une sadaqa. Et d'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique et qui est magnifique, qui met en valeur le travail et qui considère le travail comme un acte noble. Il dit, si vous avez dans la main un plant de tomates, d'oignons, de ce que vous voulez, et que c'est bientôt la fin du monde, dans 5 minutes c'est la fin du monde, plantez-le. Ouais. Plante, et que ce soit la fin du monde dans 5 minutes, c'est pas grave. Allez, la logique illogique que nous avons, c'est il reste 5 minutes pour la fin du monde, pourquoi je vais me prendre la tête à planter une carotte alors qu'elle ne poussera pas puisque tout va exploser. Que veut dire ce hadith ? Ce hadith veut dire que le travail en lui-même, même si il ne donne pas de fruits, l'effort en lui-même est noble. Vous entendez ? L'effort est noble. C'est très important de voir les choses comme ça. Wallah, ça nous évite d'avoir des bras cassés, des feignants. Non. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui, comment elle a été éduquée. Elle a été éduquée à ne pas faire d'efforts. Parce que l'effort, c'est quoi ? C'est une punition. Moins t'en fais, mieux tu te sens. Alors que c'est le contraire. Plus tu en fais, mieux tu dois te sentir. Parce que tu as fait un acte qui est noble. Tu devrais être heureux et content. Allah, c'est une catastrophe. Notre jeunesse est atteinte de la maladie de la fainéantise, el kassal, l'impotence, l'incapacité. Les jeunes ne veulent pas travailler. Ils n'ont pas le goût, l'envie du travail. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans la philosophie du travail. Tout simplement. Tout est une question d'éducation. Et les premiers fautifs, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ne font pas travailler leur enfant, à la maison et à l'extérieur. Ce sont les parents qui assistent les enfants. Ce sont les parents qui mettent les enfants dans la dépendance. Vous entendez ? Si bien que le gosse, il est incapable de se débrouiller. Il dépend de tout. Même manger, il ne peut pas se faire à manger, il ne sait pas. Il faut qu'il achète, qu'il le réchauffe et qu'il mange n'importe quoi. Oui. Son vêtement s'est arraché, il est incapable de le coudre. C'est même parce que c'est une aiguille et un fil. C'est une catastrophe. Et regardez comment... regardez le résultat. Celui qui n'a pas été habitué à faire des efforts, à travailler, à se prendre en charge. C'est quoi le résultat après ? C'est qu'une fois qu'il est grand, si la société lui propose bien des solutions faciles, il plonge et il prend la facilité et il délaisse la difficulté. Parce qu'il n'est pas habitué à assumer. La difficulté pour lui, c'est une montagne. Il ne peut pas la déplacer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les années 80, ouais, on a proposé à la jeunesse de rester dans le désœuvrement. Ne bossez pas. Pourquoi vous voulez bosser ? Vous voulez bosser pour avoir de l'argent. On va vous donner l'argent. On va vous donner l'argent. Et on a créé le RMI. Ouais. Et les Arabes ont plongé dans le RMI. Ah oui, ils ont plongé corps et âme. Ils sont restés dedans. Il dit, pourquoi je vais bosser ? Regarde, il me faut un peu d'argent, je fais un peu de business au black, ou un peu d'emprunt illicite. Ouais, vous voyez lequel ? Moi, je vous dis ça parce qu'il y a des jeunes qui me le disent. Ils disent, ça va pas, moi, je bosse pas. Je tousse les aides, c'est ça ? Je gratte, c'est suffisant. Du moins, c'est suffisant. C'est normal. Il est encore chez papa et maman. Ah ben oui, ça, il a ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Il profite des aides de l'État. Il profite de papa et de maman. Il cumule les deux. Club Med. Cadeau empoisonné. De papa et de l'État. Il s'est fait arnaquer par les deux. Ouais. Il s'est fait arnaquer par les parents. Parce que les parents... C'est assistanat. Ben, en fait, ce n'est pas dans son intérêt. Non, mets-lui un coup de pied au derrière. Ouais. Réveille-toi, va bosser. Vous ne l'aidez pas quand vous l'assistez, votre enfant. Au contraire, vous l'affaiblissez. Et l'État ne l'aide pas non plus. Il n'y a pas de boulot. Allez, je lui fais faire une formation. Pas celle qu'il veut, hein. Non. Celle dont nous avons besoin dans la société. Il nous faut 400 chauffagistes, 1300 électriciens, 10 000 ingénieurs en trucs. C'est tout simple. On a les chiffres. Ouais. Je lui fais faire la formation. Et s'il ne veut pas, je suis un extrémiste. Hein. Excusez-moi, je le mets en prison. Non, en prison, il va être au Club Med en prison. Il va être nourri, logé, la télé. Ils ont même Canal+, il paraît. Décodé, hein. Ah ouais. Les mecs, ils étaient en prison, ils m'ont dit on avait Canal+. Je ne sais pas comment ils font. Allah à la main. Dites pas comment. Ouais. Gâter l'enfant, l'assister, le jeune, c'est en faire un consommateur. Et non pas un productoire, un producteur. Et le propre de l'être humain, c'est de produire. Vous entendez ? Le propre de l'être humain, c'est de fabriquer, c'est de créer. Ah là là là, mon Seba. Regardez l'arnaque en 95, je crois. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ça s'appelle le contrat... Comment ? Premier emploi ? CNE. CNE ? Non, non, avant. Le CES, contre emploi solidarité. Allez, t'es étudiant, ils te donnent un boulot, tu fais les dents en même temps, c'est ça ? Pendant 5 ans. C'est emploi jeune. Les emplois jeunes. Emploi jeune. 5 ans. Ouais. Catastrophe, l'emploi jeune. Je connais des dizaines de jeunes musulmans très bien. Ouais. Le mec qui est en licence, il était en deuxième année de fac. Allez, quoi, emploi jeune. T'imagines, toi, 1000 euros. C'était ça, c'était 1000 euros. Ouais. Je vais mes études et en même temps, je vais bosser. Tu sais, il bosse dans une maternelle, il garde les gosses, il les rentre, il les sort, il les accompagne à la cantine. Bref, des emplois jeunes. Après 5 ans, qu'est-ce qu'il en est de ses études ? Rien. Il n'y a pas avancé d'un iota. Et après 5 ans, son emploi jeune, il s'est transformé en quoi ? La NPE. Bra. Rahoufia. Wallah, une catastrophe. Faites très attention. Ouais. Il y a des pseudo-solutions parfois qu'on propose aux jeunes qui sont des cadeaux empoisonnés. Donc, le travail est sacré, c'est une obligation, c'est une nécessité. Maintenant, une fois qu'on travaille, on fait quoi ? Ouvrez vos oreilles, c'est pas fini. Le boulot commence maintenant. Tu dois faire quelque chose de fondamental qui s'appelle bien travailler, bien bosser. Eh oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu aime, il aime quoi ? Il aime lorsque l'on bosse, que l'on bosse de manière comment ? Excellente. Ça s'appelle l'ihsan. C'est-à-dire il faut bien bosser. Excusez-moi, hein, je ne suis pas raciste. Il ne faut pas faire du travail d'arabe. Ah, c'est méchant hein, ce que je dis, non ? Vous savez que l'expression à l'origine, elle était bonne hein ? Au Moyen-Âge, quand on disait « fille du travail d'arabe », c'est-à-dire du travail de pro. Vous savez que, comment elle s'appelle, la cathédrale Notre-Dame à Paris ? Vous la connaissez ? Non ? Vous n'êtes jamais allé ? Vous n'êtes jamais allé à Notre-Dame ? Bon, vous avez tous vu Quasimodo. Ouais ? Bah, c'est... Vous l'avez vu. La cathédrale Notre-Dame, au cas où vous ne le sauriez pas, ouvrez bien vos oreilles. Des dizaines et des dizaines d'architectes musulmans et d'ouvriers spécialisés ont participé à sa construction. Oui, ils ont participé à sa construction. À l'époque, il y avait des échanges. Et on ramenait des musulmans d'Espagne, du Maghreb, pour construire des monuments. Parce que les Arabes, entre guillemets les musulmans, étaient connus pour leur capacité productrice. Et oui, vous vous rendez compte ? C'est pour cela, en 1492, quand ils ont pris l'Espagne, Hadak Jiménez, le fêlé de l'esprit, là, celui qui est derrière l'Inquisition, le cardinal Jiménez, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, le Khabith ? Il a commencé à détruire des mosquées. Il ne supportait pas la vue de la mosquée. Heureusement que Charles, le 5, Charles Quint, ouais, roi d'Espagne, il l'a arrêté. Il a dit, qu'est-ce que tu fais, espèce de... Vous voyez quoi ? Tu es en train de détruire des chefs-d'œuvre. Au lieu de détruire, tu sais ce que tu fais ? Tu enlèves le minaret, tu mets un clocher à la place. Tu rajoutes une nef. Mais détruis pas ça. On n'arrivera jamais à faire ça. La preuve, regardez la grande mosquée de Cordoue. Ils ont commencé à la détruire. Il y avait plus de 1200 et quelques colonnes. Là, il ne reste plus que 800. Et heureusement, Charles Quint les a arrêtés. Arrêtez le massacre, arrêtez. Vous êtes en train de tuer quelque chose de beau et de magnifique. Il était plus ouvert, plus intelligent. Donc, le travail d'arabe, il fut intense, c'était... Non pas quelque chose de dégradant, mais au contraire de valorisant. Donc, ce que nous demande notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand on bosse, c'est de bien bosser. Vous avez compris ? Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Inna Allah yuhibbu min al-amili ida amila an yuhsina. Dieu aime que l'ouvrier, quand il travaille, qu'il travaille bien. D'accord ? Pourquoi, à votre avis ? Parce que ce qu'il est en train de faire, ouais, Dieu va le récompenser. Mais Hachem, quand même, fais pas du travail gâché, puis après tu le présentes à Dieu. Ouais, un peu de... Quand tu fais ta prière, tu la fais bien ou tu la fais pas bien ? Tu fais tout pour bien la faire, la prière, non ? Oui ou non ? La même chose, le boulot, tu fais le maximum d'efforts pour bien le faire, pour que ça plaise à Dieu, et puis aussi pour que ça plaise quoi ? Ben, pour que ça plaise à celui qui va te verser le salaire. C'est évident, puisqu'il y a un contrat quand même, hein, quand tu bosses avec quelqu'un, chez quelqu'un. Il y a un contrat. Ouais. Et il est demandé aux croyants de respecter ses engagements. Donc, tu dois respecter le contrat. Si le contrat stipule que tu dois faire ceci et cela de telle manière, il ne faut pas trahir. Parce que Dieu dit dans le Coran, « Aoufou bil'uqud ». Si vous êtes lié avec quelqu'un, vous êtes engagé avec quelqu'un, vous êtes obligé. C'est écrit dans le Coran, « Aoufou ». Assumez, tu vas jusqu'au bout. Et si au milieu de la route... Tu changes d'avis, tu n'es plus d'accord, ce qui est possible, tu arrêtes le contrat, tu dis je l'annule. Ouais. Et tu assumes les conséquences, hein, bien sûr, hein, tu assumes. Hein. Ouais. Ce que tu as annulé, donc automatiquement, il y aura des conséquences. Mais tu n'as pas le droit de t'engager et de ne pas respecter. Ouais. Sinon, c'est de là. C'est de la trahison. Ouais. Si c'est de la trahison, ça veut dire que ce que tu mets dans ton assiette n'est pas sain, n'est pas clair. Ouais. Donc essayez d'être le plus parfait quand vous bossez. Bossez bien, faites bien votre travail, respectez votre engagement. Sinon, ça va avoir des conséquences. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le boulot, sur le travail. J'ai un très beau livre ici. Il va bientôt être traduit, je l'espère, Inch'Allah, parce qu'ils sont en train de traduire ses livres. C'est le livre de Cheikh Youssouf al-Qardaoui, qui s'appelle « Dawr al-Qiyam wal-Akhlaq fil l'Iqtisad al-Islami », la place de la vertu et de la morale dans l'économie. Notre économie ne doit pas être une économie sauvage. Ça doit être une économie qui est basée, fondée sur des valeurs, n'est-ce pas ? Le travail, c'est la pierre angulaire de l'économie. Donc le travail, chez nous, si on l'aborde sous l'angle de la morale, de l'éthique, de la croyance, de la foi et de la religion, est-ce que ça va se ressentir dans l'économie, oui ou non ? Est-ce que ça va se ressentir dans la société ? Mais bien sûr, ça va avoir un impact. Il n'y a qu'une manière pour que cela se fasse, c'est quoi ? C'est d'apprendre sa religion. Donc ce livre va bientôt être traduit, s'il ne l'est déjà pas, je ne suis pas au courant. Vous l'achèterez, Inch'Allah, puis vous le lirez, et vous verrez que wallah, il y a de quoi être fier d'être musulman. D'accord ? Il y a de quoi être fier d'être musulman. Les compagnons du prophète, c'était des bosseurs, ce n'étaient pas des fainéants. Et ils bossaient bien. Ouais. Ce n'étaient pas des gens qui ont compris la religion comme l'ont comprise certains musulmans par la suite, qui vont considérer que s'adonner aux choses de ce bas monde est contraire à la croyance en l'au-delà. Inch'Allah, nous allons créer le paradis sur terre pour vivre le vrai paradis dans l'au-delà. Et le paradis sur terre, c'est quoi ? C'est justement de rendre notre société meilleure. Vous avez compris ? C'est de rendre la société meilleure. Et comment est-ce qu'on rend la société meilleure ? En faisant des efforts. Chacun fait des efforts là où il est. Toi, sur ton poste de travail, tu bosses comme il faut. Tu bouges ton trou. Tu assumes ta responsabilité. Et on se bat tous ensemble. Ouais. Pourquoi ? Pour améliorer notre société en améliorant le système dans lequel nous vivons. D'accord ? Notre société bien organisée. On a ce qu'on appelle le code du travail, non ? Vous le connaissez celui-là ? C'est quoi le code du travail ? C'est un ensemble de lois qui ont pour objectif de régler, réguler, réglementer le monde du travail. Alors il faut se battre pour respecter et faire respecter le code du travail et l'améliorer en même temps. D'accord ? Si on a des choses à rajouter, on rajoute. S'il y a des choses qu'il faut changer, on les change. Mais il faut qu'on avance, Inch'Allah, et que ça aille mieux. En ce moment, on est en pleine polémique sur la retraite, c'est ça, la réforme des retraites. Oui. C'est vrai que l'idéal, c'est que les êtres humains travaillent, mais à un moment donné, la santé ne nous permet plus de faire les mêmes efforts qu'avant. Donc il faut adapter le travail. Ouais. Le fait de prolonger la retraite en soi n'est pas un mal, l'âge de la retraite. Ce n'est pas un mal en soi, vous entendez ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées à la retraite à l'âge de 55 ans, 60 ans, 62. Ouais. Ça a été pour eux un choc. Un choc à plusieurs niveaux. Un, ils se sont retrouvés sans rien faire. Ouais. Donc c'est l'ennui et c'est tout de suite la dispute. Avec qui ? Avec la compagne. Ouais. Parce que madame, elle a son mari dans les jupons 24 heures sur 24. Moi, avant, il sortait le matin, il rentrait le soir, il était fatigué, donc ça va encore. Mais là, toute la journée, donc les disputes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, non ? Voilà, je suis observateur et puis on me sollicite. Subhanallah, il y en a qui divorcent. Dès qu'ils ont la retraite, un an, deux, trois ans plus tard, ils divorcent. Ou quand ils ne divorcent pas, vous savez ce qu'ils font ? J'ai vu des signes de la tête, donc hop, vous avez compris ? Ils vont au bled et ils se marient là-bas. Oui, parce que ça ne va plus avec la jusa. D'accord ? C'est la dispute, c'est la bagarre, c'est tu ne sers plus à rien, tu ne travailles plus, tu me prends la tête. Ça crée des problèmes hein, dans les familles. Deuxièmement, l'être humain, quand il bosse, quand il bouge, ça a un impact, un effet positif sur la santé. Vous le savez, ça. Quand vous ne foutez rien, bah vous tombez en ruine. Ouais. L'activité physique est bonne, utile, voire même nécessaire pour le corps. Pour ne pas dire obligatoire. Pour maintenir la forme. On le voit. Je me souviens quand on allait à l'école. On arrêtait l'école au mois de juin. On reprenait en septembre. La première séance de sport en septembre, c'était comment ? C'était la galère. Parce que pendant 2 mois, on a fait le feignant. Ouais. Donc, dès que tu arrêtes l'activité physique, ça a un impact. Et c'est souvent là que beaucoup de maladies se réveillent et se déclenchent. Subhanallah. Parce que tu ne bosses pas. Qu'est-ce que tu fais, à ton avis ? Tu manges. Et puis, tu ne brûles pas. Et vous savez ce que c'est, hein ? Manger et ne pas brûler, c'est la mort certaine. Donc, ce qu'il faudrait peut-être faire, wallah alam, ouais. C'est une pensée comme ça, c'est effectivement que les gens partent à la retraite assez tôt, ouais, mais qu'ils ne quittent pas le monde du travail, c'est-à-dire les reconvertir, leur donner un autre boulot ou le même boulot mais moins longtemps, c'est réduire le temps de travail. Trouver une solution pour que les gens soient actifs, ouais, pour l'intérêt de l'économie, mais aussi l'intérêt de la société, et en même temps, permettre à d'autres de les remplacer, surtout qu'il y a des travaux qui sont pénibles. Mais je pense bosser de manière pénible jusqu'à 70 ans, ou 67 ans, 65 ans, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut qu'on trouve une solution. Vous entendez ? Il faut trouver une solution. Pour ça, bossez quand vous êtes jeune et mettez de côté pour votre vieillesse. Ouais. Soyez économes, soyez des fourmis, et non pas des cigales. Parce que vous pouvez avoir des surprises dans 30 ans, 40 ans, dans 20 ans même pas. D'accord ? C'est d'investir. Ou tout simplement... gérez bien votre argent. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une bonne gestion de l'argent, hein, c'est 1/26 de la prophétie. Hein. Il a dit: husnus samt, être bien habillé, hein, avoir un beau look, wal iqtisad, husnul iqtisad, une bonne gestion de l'argent, c'est 1/26 de la prophétie. C'est-à-dire, les prophètes étaient 26 fois plus mieux gestionnaires, ils géraient mieux que vous, et ils étaient plus élégants que nous. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. D'accord ? Puis, si vous n'êtes pas d'accord avec cette réforme en ce moment, bah, vous pouvez manifester votre désaccord de mille et une façons. Mais il ne faut pas rester... je m'en fiche, ça ne me concerne pas. C'est pas vrai, ça te concerne toi le premier. D'accord ? Wallah alam, walhamdulillahi rabbil alamin. On va s'arrêter ici parce qu'il se fait tard, je crois. Hein. C'est ça ? Il faut rentrer, il y en a qui bossent demain. Non ? Il y en a qui bossent demain ? Non ? Demain, c'est le jour du repos, c'est ça ? Il faut, hein, des moments de repos. Vous entendez, hein ? Il faut des moments de repos. Il faut bosser, il faut se reposer pour reprendre la forme, pour rebosser. Il faut savoir se reposer. D'accord ? C'est très bien. Mais pas trop longtemps, hein, sinon ça devient de la fainéantise. Vous n'avez rien à dire ? Vous n'avez aucune remarque, aucune critique ? Rien à rajouter pour compléter ? Ben sinon, on se sépare. D'accord ? Vous êtes les meilleurs, hein. Le président de la mosquée, le frère Mustapha, a téléphoné, parce qu'il est fatigué. Donc il s'excuse, hein. Il n'est pas présent. Et on l'excuse. Et priez pour lui, Inch'Allah, et toute l'équipe qui gère la mosquée, pour qu'il soit en bonne santé, parce qu'il bosse. Il bosse même beaucoup, je crois. Hein. C'est ça ? Ils ont leur travail chacun. Et en plus, ils bossent un deuxième poste avec Dieu, avec la mosquée. Donc, faire deux postes, ce n'est pas évident. Hein. C'est presque surhumain. C'est pour ça, si vous avez du temps, et vous en avez, okay, de la disponibilité, vous en avez, il faut venir à la mosquée bosser. Ouais. Il faut offrir vos services à la mosquée. Ouais. Moi, je suis prêt à venir une fois par semaine, pendant 2 heures, pour passer l'aspirateur, pour laver les toilettes, pour ramasser les papiers dehors, enlever les mauvaises herbes. 2 heures par semaine, vous venez, vous le faites, le dimanche matin, au lieu de regarder téléfoot. Non ? Demain, c'est téléfoot au matin. Non ? Vous regardez pas téléfoot ? Si, vous regardez. Ouais. Ça arrive, non ? Vous regardez pas ? On fait un sondage ? Non ? Qui regarde et qui regarde pas ? C'est pas un péché hein, de regarder le foot, hein. J'ai pas dit ça. Hein. Mais vous savez c'est quoi le péché ? C'est de regarder le foot et de ne pas donner 1 heure à la mosquée ou 2 heures. Ça c'est un péché par contre. Parce que c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu préfères le foot à la mosquée. Vrai ou faux ? Qui n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire ? Vous êtes tous d'accord. Donc vous allez vous bousculer demain pour passer l'aspirateur. Non ? Vous n'allez pas vous bousculer, vous allez travailler intelligemment. Ouais ? Vous allez voir le responsable de la mosquée, puis vous allez inscrire votre nom. Moi, je prends le dimanche 30 novembre. Bah, moi, je voudrais le 6 novembre. Bah, il est déjà pris, semaine suivante. Voilà, vous inscrivez. Hein, on fait une liste. Ça, pour ça et pour d'autres boulots à la mosquée. Franchement, on se partageait le travail, ça irait pas mieux. Vous ne trouvez pas, non ? Hein ? Partition du boulot, la gestion du travail. Ça nous manque un peu, je crois, nous... Nous, on est un peu désordre, nous, les Arabes. Pardon, je ne suis pas raciste. Ouais. Mais tu le vois à la mosquée, c'est toujours les mêmes qui bossent, c'est toujours les mêmes qui font. Et les autres regardent. Ils regardent les autres travailler. Qu'est-ce qui doit se passer dans la tête du mec qui regarde quelqu'un bosser ? Qu'est-ce qu'il doit se dire ? Il doit se dire, ah, oh, c'est un pigeon celui-ci. Pourquoi il travaille ? Il ne va rien gagner. Il n'y a rien dans la tête. Il est fou. Excusez-moi, je suis méchant, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de beaucoup de musulmans. Ils ont du temps, ils ont des compétences, ils ont de la disponibilité. Ils ne veulent pas donner 2 heures par mois, fis abilil. Alors qu'on donne 2 heures par jour, téléphone, la télé, internet, Xbox, la Wii, la non. Vous comprenez ? C'est-à-dire, des choses, je ne vais pas vous dire que c'est haram tout ça. Vous êtes bien d'accord que ce n'est pas vital et nécessaire, c'est secondaire. Il y a quand même des priorités. 2 heures par jour. Et allez, 1 heure par jour. Ça fait 30 heures. Moi, je te dis de prendre sur les 30 heures, 2 heures et tu les donnes à la mosquée. 2 heures de boulot à la mosquée. Et wallah, tu seras bien payé. Combien, je ne sais pas. Ouais, parce que c'est Dieu qui a les fiches de paix, ce n'est pas moi. Mais wallah, que tu seras bien payé. Si on s'y mettait tous, on ne sentirait pas le travail. Généralement, c'est ce qui se passe dans certaines entreprises, sur le monde du travail. Ouais. Tu as 100 personnes qui bossent, il y en a toujours une trentaine, une quarantaine qui foutent rien. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais travaillé dans l'industrie. T'es fou, toi. Il y en a, c'est des pros de la planque. C'est des pros de l'esquive. Ah oui, sur 8 heures, s'il te fait 2 heures, oh là là, je suis mort, j'ai bossé. J'ai une semaine terrible. Ah oui. C'est l'art de ne pas travailler, ça s'appelle. Comment être sur son lieu de travail et simuler le travail. C'est une science. Eh oui, c'est une science. Et elle se transmet malheureusement. C'est si elle se transmet. Comment taper l'esquive ? Ouais. C'est terrible, hein, wallah. Bon, je ne suis pas pour... comme les Japonais font, ouais, ils bossent après suicide si jamais l'entreprise elle a pas fait de bénéfice. Ou là, l'autre, là, comment il s'appelle là, en Russie, même, ils avaient affiché sa photo, là. Le mineur, là. Ils les ont arnaqués, là. La révolution bolchevique, elle a arnaqué les ouvriers. Dans les mines, ils leur ont mis... je ne sais plus comment il s'appelle, l'ouvrier, là. Ils ont... Comment? Stakhanov. Mskine. Ouais. Allez, Stakhanov, il travaillait beaucoup, Zama. Je sais pas, par exemple, il extrayait 4 tonnes de charbon par jour. Donc regardez, Stakhanov, il arrive à extraire 4 tonnes, donc vous tous, vous êtes capables d'extraire 4 tonnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient les mecs? Ben, ils crevaient leur race à sortir 4 tonnes. Ils n'ont jamais réussi, hein. Mais ils étaient à 3 tonnes 500. Hein, ils les ont arnaqués, Zama. C'est le culte, c'est devenu une religion. L'opium du peuple, ouais. Bon, ça, ce sont les extrêmes. Mais quand même, un juste milieu, un peu de bon sens, d'accord? Mais d'ailleurs, tu es au boulot, ils t'arnaquent, tu bosses pas, tu tapes l'esquive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton contrat, tu le respectes pas. Donc, ça veut dire que tu triches, tu voles. Donc, ça veut dire que tu vas manger à la fin du mois. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, il t'a pas vu. C'est ça. Qui ne t'a pas vu? Vous avez vu pourquoi la dimension spirituelle est fondamentale, elle est importante. Il y a des frères qui travaillent dans certaines boîtes. Il y a le patron, avec le temps, il a capté et dit, ces gens, ils ne sont pas comme les autres. La confiance est entrée. Le mec, il a les clés de l'entreprise. Il fait ce qu'il veut, le frère. Les clés, le patron, il dit, tiens. Parce qu'il sait qu'il ne vole pas, qu'il arnaque pas, qu'il bosse, qu'il... Tu vois, il sait que le mec, il est sincère. Et c'est ça qui va faire ta force et qui va faire la force de l'islam, inshallah. Ton sérieux, ton sacrifice, ton respect de l'engagement. Wallah, ihfadna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Je m'excuse, hein. Juste une parenthèse. J'ai carrément oublié un volet de mon intervention. Ouais. C'était le travail de la femme. Ouais. Et je sais pas, je l'ai zappé. Donc, mille excuses, hein, les femmes. Je ne sais pas calculer. Mais en résumé, en 2 secondes, les femmes travaillent. D'accord, vous le savez. Et elles travaillent beaucoup déjà, alhamdoulilah. Et le travail de la femme, par excellence, c'est le travail à la maison qu'elle fait. Et le travail à la maison, ce n'est pas quelque chose de dévalorisant, de dégradant, de péjoratif, de nul. Ouais. Au contraire, c'est sans doute le travail le plus noble que la femme ait à faire sur terre. Donc Allah ibarak fikoum, considérez que votre travail à la maison, c'est une obligation, c'est une nécessité et c'est une adoration. Il faut juste trouver la formule chimique pour garder le sourire pour le faire. Et cette formule, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. Ouais. C'est fisabilillah ce que vous faites. Hein, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Ce n'est pas, comme l'a dit Simone de Beauvoir, une tâche d'immanence, hein, une tâche d'esclave, rabaissant, ouais, nul. Parce qu'à la fin du mois, vous n'avez pas une fiche de paie où c'est écrit 1700 euros ou 1400 euros. Vous avez plus que 1400 euros. Vous avez la paix à la maison, vous avez le bonheur, vous avez vos enfants, vous avez votre mari. Ça n'a pas de prix. Parce que moi, j'en connais qui touchent 2000 euros par mois des meufs. Hein. Oh, les pauvres. Oh, comment elles souffrent. Elles seraient prêtes à donner leur salaire pour changer de boulot. Hein. Rentrer à la maison et avoir un mari et avoir des gosses. Donc, Allah ibarak fikoum, ne tombez pas dans le piège de notre société qui veut nous faire croire que l'objectif de la vie sur Terre, c'est de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. L'argent, c'est un moyen. Pourquoi? Pour vivre le bien-être et le bonheur sur Terre. Et c'est quoi le bien-être et le bonheur sur Terre? Si ce n'est que de vivre en famille, en couple et avoir des enfants. Vous l'avez, alhamdoulilah, sans avoir à sortir et aller courir pendant 8 heures, pendant 12 heures. Il y a quelqu'un qui le fait à votre place. Dites alhamdoulilah. C'est magnifique, c'est super. Vous occupez-vous de l'intérieur, lui s'occupe de l'extérieur et vous vous complétez. Et vous n'êtes pas supérieur à lui, il n'est pas supérieur à vous. Le meilleur des deux, c'est celui qui craint Dieu le plus et non pas celui qui, en apparence, travaille le plus. D'accord ? Et chapeau à ces femmes qui bossent à l'intérieur et à l'extérieur. Elles sont exceptionnelles, je ne sais pas comment elles font. Elles sont trop fortes et trop puissantes. Elles s'occupent de l'intérieur et elles sortent à l'extérieur parce que c'est nécessaire pour épauler son mari, etc. etc. Je leur tire mon chapeau, ce sont des courageuses, des héroïnes. Ouais. Mais qu'elles fassent attention. Ok ? Parce que l'équilibre n'est pas facile à créer et à faire. Et beaucoup de femmes qui sont sorties ont eu des surprises après 10 ans, après 15 ans. Ouais. Parce qu'elles n'ont pas pu apporter toujours tout ce qu'il fallait à leur famille. Alors certaines perdent leur mari. D'autres, et c'est encore pire, perdent leur enfant. Parce que l'enfant n'a pas besoin uniquement de boire, manger les vêtements. Il a besoin que vous lui apportiez quelque chose de plus noble, de plus important. Ouais. Et wallah, le salaire du monde entier ne vaut pas votre enfant. Vous entendez ? L'argent du monde, les trésors du monde ne valent pas votre enfant. Vous perdez votre gosse, vous avez tout perdu. Et votre regret ne servira à rien du tout si ce n'est que vous torturez. Préservez, protégez votre enfant en travaillant de la meilleure façon à l'intérieur. Votre salaire sera la satisfaction d'avoir des enfants équilibrés, bien éduqués. Je ne vous parle pas de ce que vous aurez dans le paradis, inshallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.